Radio Libre.
Libre circulation.
L'émission hors les murs.
Ah bah les murs.
À bas les murs, ouvrons les frontières.
Merci à toi d'ouvrir les micros aussi également. En même temps, elle fait tout, elle sait tout faire. Elle le fait depuis longtemps et on l'en remercie. Donc, nos deux protagonistes, alors bon, les prénoms, tout ça dans le désordre, dans l'ordre, c'était une Tiffaine, après au choix. Donc, Morgane et Tiffaine, ça fait un peu BD, bande dessinée, mais ça n'est pas de la bande dessinée, c'est du réel. Vous travaillez, vous êtes bénévole.
Bénévole.
Bénévole dans l'ONG SOS Méditerranée ou qui me la présente ?
C'est récemment, tout récemment arrivé. En fait, c'est une antenne, il y a plusieurs antennes en France.
D'accord.
Et du coup, on a rencontré en fait Marie Rajabla au Festival Convivencia en juillet, qui était à Toulouse, donc ils étaient là, pour présenter notamment son livre en fait, qui s'appelle Les Naufragés de l'Enfer. Donc Marie Rajabla, c'est une infirmière qui a été sur le bateau l'Aquarius, donc de SOS Méditerranée, qui est le bateau de sauvetage donc en mer tous les jours. Elle y a passé 6 semaines, c'est ça, en novembre 2016. Et du coup, elle a écrit ce livre où elle a recueilli les témoignages de rescapés sur le bateau.
Juste rewind, la SOS Méditerranée, c'est né quand, dans quel contexte ?
C'est à partir de 2015, donc c'est Klaus Vogel, j'ai pas le bon accent, un capitaine allemand de la marine marchande, qui disait justement que quand il était jeune, il raconte souvent la petite anecdote, quand il était en mer de Chine avec ses capitaines, quand il était encore... Sous pavillon, qui rentrait à vide en fait après avoir déposé des cargaisons et que le capitaine décidait de contourner les routes pour éviter de retrouver des boat people en fait, parce qu'il voulait pas se charger de ça. Il s'était toujours dit qu'en étant capitaine, il reproduirait jamais ça. Bien. Voilà. Et donc en rencontrant Sophie Beau aussi, qui est une Française elle pour le coup, qui a travaillé pour SOS Médecins sans frontières et une ancienne ethnologue. Ils ont décidé de créer SOS Méditerranée face à l'absence totale de sauvetage en mer par les institutions européennes et la situation critique qui se passe en mer Méditerranée. Ouais.
Donc c'est une organisation non gouvernementale,
exactement,
dite ONG.
Voilà.
Donc on reprend sur peut-être la démarche de cette infirmière donc, qui a édité un livre,
voilà,
témoignage.
En ayant elle-même fait partie de l'équipe donc, sur le bateau, l'équipe médicale. Et donc elle a décidé aussi, après ce livre-là, de se mobiliser sur Toulouse. Et donc l'antenne locale est toute récente et on vient d'arriver également.
Bravo.
Pour porter le message.
Donc on écoute votre message, SOS Méditerranée, c'est quoi le message de SOS Méditerranée ? Il faut intervenir, il faut des moyens, il faut des contre-pouvoirs, il faut des sourires.
Il faut un peu tout ça.
Ouais.
La première mission, c'est effectivement le sauvetage en mer, parce qu'il y a très peu en fait, d'organisations qui sont sur ces eaux internationales, un peu invisibles depuis notre terre. Et la deuxième mission, c'est de protéger ces personnes qui recueillent pour les ramener à terre vers l'Italie. Et la dernière, c'est la vocation de témoigner, de faire des plaidoyers. Et effectivement, pour toutes ces actions, il est nécessaire de rechercher continuellement des fonds, puisque SOS Méditerranée est financé...
Ne fonctionne qu'uniquement avec des dons.
Oui, et pas que des fonds marins, quoi.
Mais voilà, une journée en mer, pour vous dire, c'est 11 000 euros.
D'accord.
Donc c'est tout l'équipage, le bateau, l'équipe de Médecins Sans Frontières.
Oui, parce que peut-être pour revenir sur le fonctionnement du bateau, c'est un bateau...
Mutualisé.
Un petit peu. Différentes équipes, on a l'équipe de marins, l'équipe médicale, et il va y avoir des médiateurs aussi qui sont à bord.
Et les sauveteurs.
Et les médiateurs qui sont interprètes et qui font office un peu de lien entre les personnes recueillies et le sauvetage.
Alors justement, je fais le lien, mais donc ça veut dire qu'uniquement sur l'Italie, on ne ramène ces personnes-là qu'en Italie.
Oui, parce qu'en fait, tout
c'est
tout
la seule
part...
adresse que vous avez.
Comment ?
Non, je rigole.
En fait, le bateau, oui, c'est ça. On dit il est le pavillon Gibraltar et il a un port d'attache qui est Catane. Et du coup, il y a
l'interne.
Voilà. Et en Sicile. Et l'association SOS Méditerranée fonctionne avec la Maritime Rescue
Coordination Center.
Et du coup, c'est eux qui vont danser les appels, par exemple, voir une.
La capitaine, c'est à Jambes.
en détresse,
voilà,
voire
un bateau qui... en détresse.
Voilà. Et en fait, il fonctionne que comme ça. Donc le bateau reçoit une information à telle zone, voilà, au large de la Libye, dans les eaux internationales, parce que c'est là qu'il y a le plus, en fait, la route la plus mortelle, où il y a le plus d'embarcations.
Ce sont les accords internationaux, en fait, voilà, qui cadrent ça.
Ils dépendent des autorités italiennes.
Donc oui, vous voulez faire le lien donc avec notre ami italien.
Il y a cette zone qui s'appelle la SAR, qui est la Search and Rescue. C'est à côté de la côte libyenne. Et c'est la capitainerie de Rome, en fait, qui gère tous les bateaux qui sont là-bas. Ils donnent les indications pour les sauver. Et après, ce sont eux-mêmes qui disent où doivent aller les bateaux. Alors, quelquefois, ils arrivent en Calabria, quelquefois, ils arrivent en Sicile, quelquefois, ils vont à Malte. Mais c'est toujours depuis la même capitainerie qu'ils décident où ils vont les bateaux.
Ça fonctionne pareil en France. Voilà, donc sur telle zone, il va y avoir tel organisme qui va devoir respecter telle norme. Et voilà, le bateau doit suivre.
Oui.
Bonne réponse. David, tu peux bien sûr maintenant intervenir peut-être sur ce que tu sais.
Ça fait combien que vous êtes... Tu as déjà dit, ça fait combien que vous êtes là, dans la Méditerranée? Ça fait combien que de cette mission?
Ça fait depuis février 2016 que le bateau, le bateau intervient, parce qu'auparavant, il y avait un bateau de la marine italienne. C'était au lendemain un peu de ce naufrage qui avait été très médiatisé en 2013 au large des côtes de Lampedusa. Du coup, l'Italie s'était saisie un petit peu de cette catastrophe. Ils sont intervenus un certain temps, ça coûtait cher. À cela s'est succédé Frontex, qui est cette fameuse organisation inter-européenne qui est chargée de surveiller nos côtes. Et il n'y avait plus personne, en fait, pour secourir en priorité aux personnes.
Et quand vous avez décidé de faire ça, il y avait aussi en coordination avec des autres ONG, ou vous avez décidé autonome? C'était SOS Méditerranée, il a décidé d'avoir un bateau et d'aller dans la mer, mais aussi en coordination avec des autres ONG, ou ça c'était une décision complètement autonome?
C'est en coordination avec notamment deux ONG qui se sont succédées à bord. La première, c'était Médecins du Monde, qui était en fait, qui déploie en fait une équipe médicale à bord. Et aujourd'hui, c'est Médecins Sans Frontières qui déploie une autre équipe, Médecins Sans Frontières Pays-Bas.
Ok. Parce que, en fait, Médecins Sans Frontières, il a décidé de ne pas signer les fameux codes de conduite italiennes. Ils ne sont pas restés, eux.
Mais alors après, je ne sais pas quel est le positionnement de Médecins Sans Frontières Pays-Bas, à comparer à, je ne sais pas, en termes de gouvernance qui...
On rentre un petit peu dans le détail.
Alors, est-ce qu'on pourrait justement expliquer ce que le gouvernement italien impose maintenant aux ONG? Si on peut le détailler, peut-être.
Oui, je t'ai dit un peu, c'est que l'Italie, après, ils ont changé un peu. Ils avaient beaucoup d'ONG qui étaient sur la Méditerranée. Il y avait Médecins Sans Frontières, il y avait SOS Méditerranée. Il y a toujours Open Arms aussi. Il y avait un... ONG allemande qui s'appelle Jagenrettet aussi, et plusieurs encore. Et en fait, ils ont, comme en 2016, le flux de migrants qui est arrivé, il a rejoint presque 180 000 personnes arrivées dans une année. Et cette année, il est plus ou moins les mêmes. Le ministre d'Intérieur, il a décidé d'imposer une politique très, très, très oppressive, opprimante, en fait. Ils ont décidé de limiter beaucoup l'action des ONG sur la zone des SAR. Ils ont fait un code de conduite pour tous les ONG, et il y a plusieurs ONG qui ne sont pas signées, et des autres sont imposées pour les changer un petit peu. Je pense à SOS Méditerranée.
C'est le cas de SOS Méditerranée, oui, notamment une des clauses qui prévoyait la présence à bord d'un policier armé lors de leur sortie en mer.
Ouais, c'est
pas une pertinence.
Ouais, c'est ça aussi qu'il a fait. Il a eu l'opposition des MSF, surtout. Médecins Sans Frontières a dit non, nous on veut pas des policiers armés sur des bateaux de sauvetage.
Et c'est la Méditerranée non plus, je pense.
Ouais. Ils ont... Oui, apparemment. D'après vos dernières informations, en tout cas.
En fait, c'est un peu comment ça se dit en français, vicieux peut-être, parce qu'en fait les codes de conduite, c'est pas obligatoire, c'est très recommandé, non,
c'est un peu l'État qui joue, qui fait joujou avec
c'est pas obligatoire,
le faux juridique, quoi.
C'est pas obligatoire, mais en fait, si tous les signes passent, c'est un problème, et les problèmes, ils ont eu surtout l'ONG allemande c'était Jürgen Retten avec, sa, avec les bateaux de la Juventus. Là, les bateaux, ça a été inquiété par la procure de Trapani italienne. D'accord. Et maintenant, ils ont séquestré les bateaux et ils ont sous procès maintenant.
D'accord.
Ils ont pas, mais d'accord. Un peu plus faire, un peu plus faire de sauvetage. Et en fait, il y a beaucoup plus de ONG qui se sont retirés de la mer parce que aussi, ce qui s'est passé, que le gouvernement italien il a décidé de faire cette code de conduite, mais aussi il a décidé de. En fait, on peut dire de payer exactement tous les milices qu'il y a sur le territoire libyen, comme surtout à Sabratha, que c'était la ville où tout le monde part de la Libye. Ils ont décidé de payer les milices.
De financer. C'est ça ?
Oui, de financer.
Financer, peut-être mieux financer. Que payer. Mais
de financer. De financer. Comment ça se dit, pour aider le gouvernement de Tripoli, non, en fait, pour l'aider à maintenir le contrôle du territoire, ils ont décidé de l'aider comme ça, en payant les milices de Sabratha, comme ça, plus de monde, il part.
D'accord.
Et ils ont aussi développé plus la garde-côte libyenne, qui est devenue super agressive. Maintenant, ils tirent directement sur les bateaux de sauvetage aussi.
Ça, vous nous le confirmez, SOS Méditerranée, vous avez ce type d'informations
aussi. Il y a eu des retours, sur du coup, certaines équipes qui, ça pouvait faire plutôt peur, et du coup, de vraiment respecter, de rester bien dans les eaux internationales, mais ça peut, du coup, être un danger de plus pour les équipes en mer.
Oui, parce que les gardes-côtes, même libyens, sont comme autodéclarés, on ne sait pas qui ils sont et quel est vraiment leur rôle en mer. Pas forcément de sauvetage en premier lieu.
On peut le dire, non? On peut le dire.
Oui, on peut le dire. Non,
on est libre, écoute.
On est libre après de. Bon, c'est ça, si c'est ça n'engage que toi dans un premier temps.
Non, on n'a pas exactement. On ne sait pas exactement d'où ils viennent. Beaucoup de fois, ils sont les mêmes trafiquants qui ont changé un peu les drapeaux. Ils ont dit bon, maintenant, on fait partie de la garde-côte libyenne.
Oui, ça après, je suis pas du tout étonné, puisque la France elle-même aussi a fricoté avec la mafia locale marseillaise lors de la résistance et après.
D'accord, non, parce que fricote toujours.
Oui, il fricote toujours, puisque historiquement, au sortir de la guerre, il a bien fallu remonter le pays. On a fait appel à certains gangsters. Donc, comme quoi, effectivement, chaque pays a une histoire sombre également. Donc, il est possible qu'en Libye, évidemment, au sortir de toutes ces révolutions, et qui est effectivement une dérive de l'État.
Mais qui complique les opérations de sauvetage, et du coup, effectivement, les gens sont pris en otage.
Ils sont complètement abandonnés dans la mer. Ça fait une semaine, il est sorti un article en Italie sur un journal italien, qu'ils ont retrouvé un bateau, qu'ils ont calculé. Sur les corps des morts, ils ont calculé que plus ou moins ils sont restés une semaine à la dérive dans la mer. On a retrouvé 5 corps de femmes enceintes, des enfants qui sont morts.
Donc tu avais l'air de dire qu'il y avait à peu près la même quantité de tentatives de traverser la Méditerranée sur 2 années, là, 180 000, tu disais tout à l'heure.
180 000, c'était en 2016, pardon.
Ouais, c'est ça.
C'est l'année la plus.
C'est ça, il y a une. Forte augmentation, oui Fatima ?
Oui c'est ça en fait, je crois qu'on oublie aussi de préciser, c'est ça en fait aujourd'hui la Méditerranée, il y a quelqu'un qui a dit, je trouve cette image est très forte et très vraie, aujourd'hui c'est la plus grande fosse commune, c'est quand même quelques 4000 à peu près en moyenne par an, grosso modo, parce qu'il y a les chiffres qu'on a, il y a des estimations, mais on n'a pas les chiffres exacts, et ceux qui effectivement qui ont passé, comme tu viens de le dire David, qui une semaine, qui plusieurs jours, etc., c'est des inconnus, en fait c'est la mer qui se souvient d'eux, c'est tout quoi. C'est, enfin juste de dire que la Méditerranée aujourd'hui c'est vraiment une fosse commune, quoi. Voilà.
C'est une chambre de guerre, je trouve. Je trouve un peu, je me rappelle toujours des MSF, quand ils ont décidé d'intervenir sur la Méditerranée, il y avait cette vidéo que j'ai vue, où il y avait les gars qui parlaient, qui disaient exactement ça. On a décidé d'intervenir parce qu'en fait, les morts, ils sont les mêmes sont les mêmes numéros dans guerre. C'est la même.
Ouais.
Oui, SOS Méditerranée, il parle aussi d'ambulance des mers. Voilà. La vocation, c'est d'être l'ambulance des mers pour aller.
Mais la politique italienne, c'est moins gentil. Beaucoup de fois, ils parlent des taxis de la mer.
Oui,
on arrive à Tripoli, on l'amène. On arrive en Italie, c'est comme ça.
Donc, ils font un bon boulot, pourquoi pas.
Il y a beaucoup d'amalgames.
Pas... J'aimerais bien qu'il dise ça, il va là-bas vraiment, on parle de Rome, c'est facile d'assister sur le Parlement. Désolé, c'est mon idée.
Non, non, mais j'allais me reprendre moi-même en disant, mais est-ce que c'est un travail hein, que d'accueillir, de sauvegarder les gens? Normalement, ça devrait être une solidarité humaine. Et c'est bien ce qu'on
plus
a comme difficulté.
Travail,
oui. C'est ça que je voulais dire. Et justement, en termes de solidarité, il n'y a que SOS Méditerranée qui intervient en Méditerranée avec des bateaux ou il y a d'autres ONG comme vous?
Non, justement, comme il l'avait mentionné un peu plus tôt, il y a d'autres ONG.
Italiennes, peut-être.
Italiennes, espagnoles.
Mmh. Oui, espagnoles.
Après, c'est le seul bateau qui accueille vraiment de manière conséquente.
Il a
vraiment, parce que c'était un ancien bateau qui aidait pour les bateaux de pêche. Et du coup, il a une capacité d'accueil de 400-500 personnes, il me semble.
Et qui intervient.
Et parfois plus,
en
cas de besoin. D'accord. Et sa particularité, c'est qu'il intervient de manière continue sur la durée. Il y a des rotations et les équipes tournent. Ouais. Et du coup, il est là de manière constante. Quoi,
et qui a financé cette chose-là?
Eh bien, c'est les dons. C'est pour ça que c'est hyper important pour que le bateau puisse continuer à c'est vraiment civil quoi, c'est grâce
donc
aux Européens qui ont donné
de partout. Giovanni, tous les dons.
C'est pour ça que être bénévole à SOS Méditerranée, c'est principalement essayer de faire connaître un petit peu les activités d'SOS Méditerranée.
Ça ne me dit pas qui l'a créé vraiment, mais bon.
Bah, comme on l'a dit un petit peu plus tôt.
Une personne, effectivement. Mais après, des fois, on ne sait pas trop d'où viennent les fonds.
C'est vrai que... Quelle est un petit peu la sensibilité au départ du groupe qui se met en place pour tout s'agglomère à partir de ce capitaine de bateau?
Oui, ça part d'un constat qu'il ne se passe rien et que les gens meurent par dizaines, par centaines. Et c'est une action des pouvoirs publics. Enfin, comme souvent, moi, j'ai l'impression dans ce type de lutte, c'est... les associations ou les collectifs vont pallier l'inaction des pouvoirs publics.
Ouais. C'est ça.
Vous, personnellement, vous aviez une démarche associative militante avant aussi? Avant SOS Méditerranée, je veux dire.
Oui, on était avant, par exemple, sur Paris. Enfin, il y avait beaucoup de mobilisation autour des campements de migrants dans le nord parisien. Et puis, de part aussi, notre parcours...
Oui, ça pouvait être sur une autre cause. Pas que cette cause-là à défendre, bien sûr. C'est une grande cause, certes, mais il y en a tellement d'autres. Ok, d'autres choses à dire sur cette démarche d'une ONG qui n'est pas très connue encore, me semblerait, sur le grand public, je parle, bien sûr, les militants que vous êtes.
Mais maintenant, ça devient déterminant, parce qu'ils ne sont pas restés beaucoup dans la Sarre, dans cette zone d'intervention, ils ne sont pas restés beaucoup, ils sont restés eux.
Oui, c'est ça.
L'espagnol, Open Arms, et pas beaucoup d'autres.
Donc, si on veut vous soutenir,
SOSméditerranée.fr.
Pour quelque chose, bien sûr, toujours pareil.
Et puis, il y a aussi un journal de bord qui est publié par les personnes qui sont sur le bateau. Donc, on peut avoir de l'information un peu de première main pour se rendre compte un petit peu
d'accord.
plus.
Donc, c'est quoi?
C'est sur le site internet. Vous avez les jours des rapports des derniers. Bah, là, par ce qui se passait à la ville de Libyenne, là, avec les nouveaux garde-côtes. Mais tous les jours, il y a des actus. Journal de bord du bateau.
En direct. Ouais. Et ce livre de cette infirmière à l'origine.
Et donc qui est à l'origine de l'antenne toulousaine, donc Marie Rajabla, vous pouvez le trouver aussi.
Par le biais d'Internet.
Par le biais
pour
d'Internet.
Pour soutenir, effectivement.
Ou sur les stands.
Ou sur les stands des SOS Méditerranée dans les festivals ou ailleurs. Enfin, il y a toutes les actus aussi sur la page Facebook.
Bon, vous intervenez bientôt. Bientôt quelque part ailleurs, vous intervenez, vous avez la date, la
le
promo.
Le 14 octobre.
Normalement, il va y avoir une journée sur les migrations à l'Utopia Tournefeuille.
Très bien.
Et il y aura des documentaires sur les migrations.
Dernière question, peut-être, David, avant de nous quitter.
Non, c'était en curiosité. Je voulais demander si SOS Méditerranée a reçu la visite aussi des bateaux noirs, là, de la Sistage. Ils sont passés chez eux aussi, ou pas?
Ah, des groupes populistes européens.
Le bateau noir.
Les identitaires.
C'est qu'ils ont fait des identitaires.
Ils ont récolté plein d'argent pour affréter un bateau pour saboter les opérations de sauvetage des ONG présentes en Méditerranée.
Ouais.
D'accord.
Exactement.
Mais
ça.
C'est les identitaires d'où? De France?
Plusieurs pays. Je pense que j'en ai assez d'identitaires comme groupe né en France.
Oui, il me semble.
Mais il doit y avoir peut-être des groupes, Europe de l'Est.
Il y a des groupes maintenant, je pense, c'est en Allemagne. Maintenant, en Italie aussi, ils sont devenus assez connus parce qu'ils ont décidé de faire ça. Et en fait, ils ont loué un bateau. Ils ont décidé
d'intervenir.
Oui, d'intervenir, mais au contraire, non?
Oui, oui.
On n'aide pas.
D'empêcher.
Attends, ça veut dire que non seulement c'est de la non-assistance à personne en danger, mais c'est de l'assassinat, quoi.
C'est de la mise en danger.
C'est de l'assassinat.
Oui, mais aussi, j'ai vu des vidéos où ils directement, ils se mettent sur les ondes de la capitainerie des ports comme ça, ils commencent à insulter les autres bateaux directement.
Ouais, mais si c'est que l'insulte encore, c'est pas méchant, je veux dire, ça va très bien aux identitaires.
Mais si je te coupe si je suis en train de te couper les ondes où toi tu reçois les ordres de tout ça, c'est un peu.
Ah ouais, là je vais te vénérer sur les ondes. Ouais.
C'est pas seulement je t'insulte, ça va. Mais...
Ça c'est gravissime, c'est peut-être un sujet à traiter sur la.
Donc vous aviez l'info.
Gravissime.
Aussi. Le bateau noir. Donc, et du coup, les autorités ou les ONG essaient de faire quelque chose ou c'est difficile d'intervenir?
Le bateau a été immobilisé, je crois, au port de Tunis.
D'accord.
Il n'a pas pu en fait reprendre la mer. Enfin, ça a été un projet qui n'a pas.
D'accord.
Mais, pour eux, il n'y avait pas de code de conduite.
Non,
non, pour eux, non. Pour eux, ça va. Pour les autres, oui, mais pour eux, ça va.
Bien. Oui, dernière...
question, c'était savoir si elles avaient envie de lire un extrait du livre de Marira Jabla.
Ouais, c'est
éventuellement.
Il est très difficile de choisir un extrait parmi tout.
Oui, ça on dit partout pareil. 19h36 minutes sur Radio Libre Circulation.
Et peut-être, si tu veux bien, je te mets peut-être un petit fond sonore en dessous, comme ça c'est peut-être plus facile à vivre. Comme tu veux, ou pas.
Ok.
Tu veux un petit fond sonore? Allez, c'est parti. Donc on va, c'est parti.
Alors parmi tous les passages qui nous intéressaient, c'est-à-dire tout le livre, on s'est arrêté plutôt sur la traversée du désert, parce que c'est des parcours qui ne sont pas forcément très documentés. Donc là il s'agit de Enzo, qui raconte son trajet jusqu'à Tripoli. Au début, on est tombé sur un bon arabe qui nous a cachés pendant une semaine et demie, parce qu'à ce moment-là, il y avait des affrontements entre différentes milices partout. Et comme tu ne sais jamais qui est contre qui et pourquoi ils se battent, le mieux c'est de rester à l'abri. C'est pas pour rien qu'on parle de Far West là-bas. On est toujours méfiant, toujours sur nos gardes. On ne peut faire confiance à personne. Quand tu fais l'aventure, c'est comme ça. Tu deviens sage ou tu deviens fou. Cet homme nous a trouvé un camion bâché et on a voyagé avec lui pendant 2 jours et 2 nuits, quasiment sans s'arrêter, sans boire et sans manger. Mais en plein milieu du désert, des hommes en armes nous ont arrêtés. Ils nous ont fait sortir et le chauffeur a dû partir. Les gars nous hurlaient dessus. On ne savait pas si c'était des policiers, des combattants ou des asthma boys, qui sont donc des truands. On nous a fait descendre dans un trou énorme. Tout au fond, il y avait des chambres, plein de chambres. Un truc incroyable. J'avais jamais vu ça. Là, on nous a donné une petite bouteille d'eau d'un demi-litre pour une dizaine de personnes. Comme on se doutait bien qu'on n'aurait rien de plus avant le lendemain, on léchait la bouteille. On n'avait pas mangé depuis 2 jours, on n'avait plus de force. Certains ont essayé de s'enfuir, mais ils se sont fait tirer dessus. Il y avait une femme avec son bébé qui pleurait. Il devait avoir faim. Ils l'ont tué avec son bébé. Ils emballaient les morts dans du papier journal et nous obligeaient à charger leurs corps dans un camion. Et ils allaient les jeter on ne sait pas où. Ça a duré plusieurs jours, puis un matin, sans qu'on comprenne pourquoi, ils ont poussé une cinquantaine d'entre nous dans un camion bâché et on est parti d'une traite jusqu'à Tripoli. Voilà, donc ça c'est un extrait parmi tant d'autres qui nous permettent un petit peu plus d'illustrer l'atrocité en fait de ces parcours migratoires et la non-information de ce qui se passe en Libye, dans les centres de rétention et autres endroits de parquage. Il y a peu d'informations, je trouve, dans les grands médias en Europe à ce niveau-là.
C'est pour ça qu'il y a des petits médias aussi.
Oui. Moi je trouve surtout qu'ils n'ont pas jamais posé des questions, vraiment des questions intéressées à des gens qui ont vécu tout ça. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé quand j'étais à Ventimiglia, j'ai passé des heures avec des migrants sur les ponts ou à temps de passer la frontière avec la France, d'arriver ici. Et en fait, on parle, on prend un peu de confiance, un peu, quelquefois, on trouve la façon de parler comme ça. Et je trouve que c'est incroyable comme cette histoire n'arrive pas, franchement. Mm. C'est incroyable de l'oublier, de pas...
Je pense qu'elle dérange trop. Les gens préfèrent ne pas s'intéresser à quelque chose qui va les choquer, qui va les empêcher de dormir, ou on ferme la porte et on continue.
Ouais, mais, enfin, je trouve, pour moi, c'est incroyable, franchement.
Oui, c'est complètement aberrant.
Exactement dans l'idée de ce que tu viens de dire, c'est, on retrouve ça dans le livre de Bruno Bettelheim, Survivre, où il narre notamment que donc, c'est quelqu'un qui est passé par Dachau et Buchenwald. Et en fait, il compte un certain nombre de lui notamment, quand il a pu sortir et puis il a pu être libéré, et avant qu'il y ait les camps d'extermination. Et en fait, quand il est arrivé en Amérique, il a eu le même parcours que d'autres, en Europe de l'Est, quand ils arrivent à sortir, et raconter ce qui se passait vraiment dans les camps de concentration. Et en fait, personne ne les croyait. Ils disaient, mais t'es tellement choqué, mon pauvre, tap, tu peux pas. Et les gens ne voulaient absolument. Et ça a duré des années. Et il semblerait que c'est ce silence qui a permis les camps d'extermination derrière. Parce qu'il y a eu une réaction, en fait, quand le Troisième Reich a décidé de tuer les handicapés, notamment, il y a eu une réaction internationale en disant, c'est dégueulasse et tout ça. Et néanmoins, quand c'était les juifs notamment, et pas que les juifs, tous les opposants, les ziganes, les cocos, tout ce que tu veux, les homos, là par contre, il n'y a pas eu de réaction. Et notamment, et quand les gens sortaient en disant, mais vous savez, il se passe ça dans les camps de concentration, les gens du commun, mais t'es fou, mais c'est pas vrai. Voilà. Et parfois, quand c'est trop énorme, on n'arrive pas à l'entendre. Et notamment entendre qu'il y a 4000 personnes qui meurent, femmes, enfants, hommes, etc. 4000 morts, bah, tu multiplies par chaque année, quoi.
Oui, plus de 2000, ça fait plus de 46 000 personnes. Et encore, comme tu disais c'est tout à l'heure, des estimations.
C'est des estimations. Donc, on a peut-être 50 000 êtres humains qui sont morts aujourd'hui au fond de la Méditerranée. Youpi, mange bien les poissons.
Ouais. Il n'y en a plus.
C'est raide. Est-ce que tu peux donner les références du livre ?
Oui, bien sûr. Ça s'appelle « Les naufragés de l'enfer », témoignage recueilli sur l'Aquarius, le nom du bateau affrété par SOS Méditerranée. C'est un récit de Marie Rajabla avec des photos de Laurine Schmid. Donc c'est les éditions Digobar.
Bien.
Et juste pour terminer, un documentaire, j'ai pas le nom du réalisateur en
tête. Les migrants ne savent pas nager.
Qui montre la première intervention en mer du Aquarius, entre autres.
Voilà. SOSméditerranée.fr. Merci à vous toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.